Bonjour à toutes et à tous, merci d'écouter Radio D4B et bienvenue dans l'émission Chrétien aujourd'hui, diffusée chaque dimanche et animée alternativement par l'Église protestante unie de France et l'Église catholique tout au long de l'année. Rediffusée les 3e et 4e dimanches, les contenus de chacune des églises se renouvellent lors des deux premiers dimanches. Chaque année, le 11 août, nous fêtons Sainte-Claire. Mais qui était Sainte-Claire? À quelle époque vivait-elle? Qu'a-t-elle fait de particulier pour être canonisée? C'est pour répondre à toutes ces questions que nous avons invité Jean-François Bec-Giraudon, franciscain du Tiers-Ordre et grand connaisseur de la famille franciscaine et que nous avions déjà reçu le 4 février dernier. Bonjour Jean-François.
Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Jean-Bernard.
Avant de commencer notre échange, je te propose de partager l'évangile du dimanche 4 août.
Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm, à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu les signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu, le Père, a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors, « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qui l'a envoyé. » Ils lui dirent alors, « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire ? Quelle œuvre vas-tu faire ?» Au désert, nos pères ont mangé la manne. Comme dit l'Écriture, il leur a donné à manger le pain venu du ciel. Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. »
Merci Jean-François. Alors ce texte fait suite au passage bien connu de la multiplication des pains. Donc sur une montagne désertique, Jésus vient de nourrir 5000 personnes et celles-ci se mettent à sa recherche. Elles sont rassasiées physiquement, mais Jésus leur reproche d'attendre de sa part des prodiges et de ne pas croire suffisamment au don de Dieu. Le pain qu'il veut donner est d'un autre ordre. C'est le pain qui donne la vie au monde, c'est-à-dire son propre corps. « Moi, je suis le pain de la vie, dit Jésus. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Bien sûr, il faut nourrir les corps, et Jésus s'en est préoccupé, en multipliant les pains et les poissons. Mais il aurait souhaité que la foule le recherche pour autre chose que du pain et des poissons. Et nous, aujourd'hui, de quoi avons-nous faim? À la foule qui lui demande comment être rassasiée, Jésus répond « Travaillez, non pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure en vie éternelle. » Et il ajoute « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » En fait, Jésus nous demande d'être un peu plus ambitieux et de ne pas se contenter d'avoir le corps rassasié, mais de nous occuper de notre âme. Il faut avoir faim de Dieu. Car c'est en ayant faim de Dieu que nous le chercherons, que nous agirons avec amour auprès de nos prochains, que nous trouverons la joie et la paix intérieure et que notre vie prendra sens. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Vous êtes bien sur Radio D4B dans l'émission Chrétien aujourd'hui. Et nous sommes avec Jean-François Bec-Giraudon pour évoquer la figure de Sainte-Claire dont nous célébrons la fête chaque année le 11 août. Alors Jean-François, peux-tu nous dire qui était Sainte-Claire ?
Ah ! Eh bien, elle est née Chiara Offreduccio di Favarone. Mieux connue, évidemment, sous le nom de Sainte-Claire d'Assise pour l'ensemble du monde entier. Elle serait née officiellement le 16 juillet 1194, décédée le 11 août 1253. Alors, elle est issue d'une famille de la vieille noblesse médiévale, assisiate. Hein,
donc plutôt aisée.
Oh, plus que ça. C'est le seul point commun qu'elle aura avec François d'Assise. Elle est née avec une cuillère d'argent dans la bouche. Sauf que elle est née dans l'autre composante de la société italienne de l'époque, la composante médiévale qui est en train de disparaître, au profit de la composante bourgeoise, habitant des villes, active, commerçante, qui est en train de monter, et dont François est un enfant, par son père drapier, qui... Voilà, deux contrastes extraordinaires. Alors, son histoire est intimement liée à celle de François d'Assise. Pour nous, franciscains, Claire est le deuxième pilier du franciscanisme, Malheureusement, évidemment, elle est très éclipsée par la personnalité du fondateur, quoi, de François lui-même et de son caractère explosif, toujours fascinant. Mais son aventure avec François va commencer, quand on lit ses biographies, on a l'impression que, je pense que c'est une impression qu'a eue Jean Bernard, que tout se fait en quelques jours. C'est faux.
Là, en tout cas, ça commence très tôt, parce que
très tôt.
Elle a à peine 16 ans, je crois, quand elle est attirée, voilà, en fait, par la spiritualité, voilà, de Saint-François.
Ça, c'est, on sait, on connaît bien les circonstances. François, petit rappel, en 1209, a obtenu l'autorisation du pape pour que lui et ses 11 compagnons vivent la pauvreté absolue dans la suite du Christ pauvre. Bon, on ne va pas trop s'étaler, on y fera toujours allusion au cours de cet entretien. Mais il est appelé à faire une prédication, à prêcher un carême en 1210. Et c'est là que Claire va rester pantoise devant la proposition de François, qui expose ses thèses de pauvreté absolue, de dépouillement.
Dans les pas du Christ, bien sûr.
Voilà, c'est ce qu'on appelle, nous, dans un mot latin affreux, la sequela Christi pauper, la suite du Christ pauvre. Bon. Toujours est-il que, absolument prise par les idées de François, il va y avoir, dans les 2 ans qui suivent, plusieurs rencontres. Clandestines, bien sûr, parce que, comme on le verra pour la suite des événements, la famille du côté le paternel, il ne va pas être très content. Il ne serait pas content. Une jeune fille, à l'époque, de la noblesse, qui est en fait de la... destiné à être uni.
Oui, qui va traîner quelqu'un qui prêche la pauvreté, même la mendicité. Donc effectivement, on peut concevoir que ça choque un petit peu les futurs beaux-parents, enfin s'il y a futurs beaux-parents.
Pauvreté absolue, et ça marche pas. Hein. Mais voilà, dans les 2 années donc, qui vont suivre ce carême de 1210, je n'ai pas la date exacte de le grand biographe de François, Thomas de Celano, ne donne pas un moment précis pour cette prédication. Elle sautera le pas, c'est-à-dire qu'elle va tout quitter, tout laisser tomber, le jour des rameaux de l'an 1212, la fameuse année qui est l'année clé. Alors, il est bon, ce n'est pas très clair, si j'ose dire, mais il est certain que le coup avait été préparé. Il était question de partir en clandestinement, en douce, de nuit, rejoindre les frères franciscains qui étaient dans la vallée à Notre-Dame des Anges, à la Portioncule, maintenant Notre-Dame des Anges. Il y a eu toute une préparation et il est probable que l'évêque d'Assise a était d'un coup. Le Thomas de Celano, je crois, rapporte que ce jour des rameaux 1212, Claire est dans l'assistance et l'évêque va droit vers elle pour lui porter un rameau. Pas besoin d'être grand clair pour comprendre que c'était le signal, vous pouvez y aller, tout est prêt. Donc, ce soir-là, cette nuit-là, Claire, aidée par une de ses tantes, c'est dommage qu'ici nous soyons à la radio parce qu'avec un écran télé nous pourrions montrer la disposition des lieux qui sont importantes pour cette histoire. Elle ne pouvait pas sortir par la porte, la grande porte, parce qu'elle se serait trouvée dans une place en forme de cul-de-sac. Et bien étonnant, elle n'aurait pas fait 10 mètres. Mais il existait une toute petite porte cachée derrière des tas de... Enfin, ce genre de porte que l'on planque et qu'on oublie, et qui, elle, donnait sur une des rues principales d'Assise, voie d'évacuation sans problème, voie de fuite sans problème. Alors là, comment faut-il l'interpréter? Elle réussit toute seule, sans l'aide de personne, sauf de sa tante, donc deux femmes, pas forcément.
C'est pas des oui, donc, et puis elle a à peine 18 ans, quoi.
Ah oui, elle est toute jeune. Elle est toute jeune.
Alors, c'est... 1212, c'est ça.
Mais comment dire, quel crâne de pioche.
C'est oui, c'est très rocambolesque comme, comme aventure.
La naissance des Clarisses, c'est... C'est incroyable, quoi. Incroyable. Cette force de cette gamine et de sa tante, qui n'est pas forcément non plus de tout premier âge, dégageant tout un tas de choses entassées devant cette porte, ça rappelle un peu la parabole, la porte étroite. Tu vois. Donc, elle s'enfuit par là, rejoint François qui l'attend dans des bois en contrebas, entre la portion culte qui se trouve dans la vallée et Assise, la forteresse qui est en hauteur. François l'accueille là avec deux compagnons, ce qui prouve bien qu'elle l'attendait, que tout était en place, et l'amène dans un premier temps, alors la portion culte, je ne sais pas si je l'ai dit, c'est un haut lieu du francilien, ce n'est pas le premier lieu de vie de la communauté franciscaine, c'est le deuxième. Mais il y a là une chapelle qui vraiment est le cœur où tout franciscain converge. La chapelle de la Portioncule, ils avaient leur camp autour, là, les 12, 13 bons hommes. Ils étaient déjà un peu plus nombreux parce que. Enfin bon, il faut imaginer un petit peu des Romanichels avec leurs roulottes à l'extérieur, vivant sur des nattes dans des huttes de branches. Enfin bon. Et. Là, François, donc l'accueille, fait un acte qui est presque un acte de liturgique, d'entrée en religion. Il va lui couper les cheveux. Ce que seul un prêtre pouvait faire lorsqu'une moniale entrait en religion. Elle était accueillie, les cheveux étaient coupés de façon symbolique, coupure avec le monde. Donc là, déjà, l'acte de François est un acte extrêmement fort, voire même, je dirais, je ne trouve pas le terme, mais un acte presque de rébellion. De...
Oui, en tout cas, de coupure entre la vie d'avant et la vie qui a commencé.
Drastique,
là.
Et lui-même s'érigeant en tant que accueillant cette demande finalement de coupure. Ce qui me fait dire, pour en aparté pour revenir, que la hiérarchie ecclésiale, le presbytérium, l'évêque, était tout à fait d'accord. Mmh. Alors de là, qu'est-ce qui se passe? C'est que, effectivement, ils ne sont pas fous, ils savent très bien que ça va. Il va y avoir du bruit dans le landerneau, hein, la fuite de la petite, elle ne va pas passer inaperçue. Donc, ah oui, alors, je précise une bonne, il coupe les cheveux, il lui remet une robe de bure, type franciscaine, en signe de bienvenue. Ils ne vont pas traîner, François va l'emmener et la confier aux nonnes bénédictines d'un couvent bénédictin de San Paolo, et dans ce... Tout ça est à 10-12 km dans un rayon autour d'Assise, donc vraiment des très, très très proches. Et il y aura une tentative extrêmement violente du père et de ses oncles pour la récupérer de force dans ce monastère.
Mais en plus, si j'ai bien compris, c'est un peu une histoire de famille, parce qu'elle a une sœur aussi qui la suit dans cette aventure-là.
On va y arriver.
On va y arriver, j'anticipe trop.
Disons que la série western n'est pas terminée. Du coup, ben, pour plus alors là, de sécurité, parce qu'il faut vraiment... Claire est emmenée, et François, au couvent des bénédictines du Monte Subiaso. Subiaso est au-dessus d'Assise, c'est quand même plus sûr que d'être dans la plaine. Et là, elle est rejointe, effectivement, une dizaine de jours après tous ces petits événements. Il faut voir que tout ça, ça se déroule en 24-48 heures. Hein, par sa sœur, la future Sainte Agnès d'Assise. Ce qui entraîne, évidemment, une nouvelle réaction extrêmement violente de la famille, mais qui fera chou blanc. Donc, à partir de ce moment-là, donc, tu vois, tout ça se déroule en 10-15 jours. Hein, faut voir que c'est très... Ceci dit, c'est vrai que c'est violent pour la famille. Tout d'un coup, piouf, il y a l'héritière qui disparaît.
Et sa sœur.
Et sa sœur par la suite. Et, dans les mois et les années qui viennent, le reste de la famille femelle. La mère va rejoindre. Enfin bon, c'est un truc... Bon, je t'avais exposé quand nous en avions discuté, une explosion, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Le francicanisme, c'est du TNT, qui part, ou de la nitroglycérine. Donc, alors c'est là que débutent vraiment les débuts de l'ordre. Enfin, lorsque, au final, bon, Claire, son idéal, on va en parler là, on va en parler maintenant avec l'ordre, avec la fondation du deuxième ordre, l'ordre des Clarisses, l'ordre des pauvres dames. L'idéal de Claire, ce n'est pas les bénédictines. Hein. Elle, ce qu'elle veut, en fait, ce qu'elle aurait voulu, c'est adopter le style de vie de ses frères, de ses frères hommes.
Et bon, on va rester là en suspens pour savoir ce qui s'est passé. Et puis, on fait une petite pause musicale. On va écouter le chœur des moines de Cheftogne, et on reprendra après. De retour dans l'émission Chrétien aujourd'hui, et nous poursuivons notre échange avec Jean-François Bec-Girodon, qui nous parle de Sainte-Claire, de sa vie rocambolesque. Alors nous avons laissé, avant la pause, Claire et sa sœur Agnès chez les bénédictines, sachant que là, elle rencontre aussi un certain succès, il y a un certain nombre de femmes aussi qui le rejoignent. Mais, tu nous disais que ce n'était pas là sa vocation. Et donc, qu'est-ce qui se passe après ?
On a sauté une étape, l'étape, je dirais, fondamentale. C'est qu'effectivement, elle ne pouvait pas rester chez les bénédictines. Donc, ce que François fait, il va les installer à Saint-Damien, l'église de Saint-Damien. L'église tout aussi importante pour le franciscanisme que la portion cule, qui va devenir la maison mère des Clarisses.
Alors cette église Saint-Damien, elle est à Assise ?
Elle est en contrebas d'Assise. À l'époque, elle était un peu éloignée. Maintenant, tu vas te promener le dimanche. Hein. Mais il l'installe là, il y a un prieuré. C'est cette fameuse église Saint-Damien que François a retapé tout seul, où il a entendu le nom du crucifix de Saint-Damien, qui est le symbole aussi de la famille franciscaine, a entendu la fameuse phrase « Va François et répare mon église qui tombe en ruine ». Et donc, il installe Sainte-Claire. Je dis Sainte-Claire, mais elle n'est pas encore sainte. C'est toujours Chiara, dit Ovule. Sa sœur, et puis déjà toutes qui avaient suivi. Et c'est là vraiment que l'ordre des pauvres dames, comme elles s'appellent d'abord, elles ne deviendront Clarisse qu'après la mort et la canonisation de leur fondatrice, va partir. Alors, je pense qu'il est important... Qu'est-ce que voulait Claire au départ ? Quelle était sa... Quelle voie voulait-elle suivre ? Bien évidemment, c'était la voie qu'avait décrite et que suivait François d'Assise, la pauvreté, vœu de pauvreté absolue. Alors, je vais te dire ce que j'ai écrit, tu vois. Adopter le style de vie des frères mineurs, l'errance, sa non-possession, mendicité, manger à la table du Seigneur lorsqu'il n'y a rien, c'est-à-dire en fait vraiment... et surtout, obtenir le privilège de pauvreté absolue, c'est-à-dire de dépossession totale. Alors il est évident...
Il faudrait revenir peut-être sur cette notion de privilège de pauvreté, parce que c'est assez curieux comme expression, privilège de pauvreté. En quoi c'est un privilège de vivre pauvrement ?
Alors là, il faut bien voir, il s'agit de ne rien posséder de matériel et entièrement de dépendre de la grâce de Dieu pour vivre, pour être entièrement consacré, pour entièrement se consacrer au fond à la prière, à la contemplation, à la louange, et se déposséder soi-même en se fondant littéralement dans le Christ.
Oui, mais le mot de privilège qui annonce une sorte de passe-droit par rapport à la règle, c'est parce que la règle voulait que dans les communautés de sœurs, il y ait obligatoirement des possessions ou que le revenu soit assuré par un travail ou quelque chose comme ça.
La pauvreté, exactement, c'est que... La pauvreté dont il parle, c'est effectivement être complètement démuni. Or, tous les autres ordres sont des propriétaires terriens, sont des propriétaires. Pas chaque membre de la communauté à titre individuel, mais la communauté possède des terrains, possède tous les monastères, les bâtiments sont la propriété de l'ordre et de la communauté. C'est géré comme une entreprise, c'est bon.
Et ça, oui, ils acceptent les dons, ils acceptent...
Bien entendu. Hein, mais ils sont propriétaires. Et fondamentalement, François dit, alors ça c'est son histoire, on ne va pas revenir, comme celle de Claire d'ailleurs, Ça, non, ça ne marche pas. Le Christ n'était pas saint. Et à un moment...
C'est pour ça qu'elle sollicite un privilège...
de pauvreté qu'avait obtenu François.
D'accord.
Qu'avait obtenu François. Donc, je vais te dire... il faut savoir que l'institution, pape en tête, sont pas favorables du tout à ce genre de choses. Parce que d'abord, effectivement... il faut quand même assurer une certaine sécurité aux personnes. Quand tu écoutes tout seul comme ça dans la nature, t'es pas en sécurité, surtout à cette époque-là. Hein. On est au XIIIe siècle, on entre dans les convulsions de la fin du Moyen-Âge. Hein, on est en pleine dispute entre les États pontificaux, entre la papauté, et le Saint-Empire romain germanique. Sans compter que depuis 1214, à cette époque-là, c'est la pile à Bouvines donnée par le roi Philippe Auguste qui assoit l'identité de la France. Donc ça fait une troisième puissance. Et qui n'est pas forcément d'accord avec se laisser imposer par le Vatican certaines notions de. Donc, tout ça, le privilège de pauvreté était une chose, une pierre d'achoppement pour. François était convaincant en 1209, autant là pour Claire, et puis bon, quand on connaît la situation géopolitique de l'époque, des femmes seules sur les routes, enfin seules, deux par deux si tu veux, mais des femmes, oh là 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 là, on les revoyait plus. Hein. Donc, il y a quand même eu une nécessité de les protéger physiquement de certains aléas qui automatiquement auraient abouti à des meurtres, des disparitions, j'en passe et des meilleurs.
Et ça a mis un certain temps, hein, puisque oui. En préparant l'émission, là, j'ai lu que la règle de Claire, qu'elle a rédigée en 1247, voilà. Et qui a été acceptée définitivement donc, par le pape Innocent IV, en 1253, donc oui. 6 ans après, c'est là que le privilège de pauvreté est inclus. Et en fait... François est mort depuis déjà très longtemps, depuis plus de 20 ans. Même 25. Et donc, on voit que ça a pris du temps, cette affaire. Ça ne s'est pas fait en un seul jour. C'est-à-dire qu'il a fallu toute l'obstination de Claire pour réclamer cet objectif de vie, de pauvreté, de vie pauvre. C'est assez étonnant, quand même.
Oui. Moi, plus je creuse la vie de cette petite bonne femme... Outre une spiritualité absolument, je fais mention dans pour moi ce qui est les quatre lettres qu'elle va adresser pendant son vivant à Agnès de Prague, qui deviendra Sainte Agnès de Prague, princesse de Tchécoslovaquie, de Tchéquie, quoi tu vois, de Bohême. Donc, ce sont des monuments de vie spirituelle et que tu as envie de contempler quand tu lis ces trucs. Moi, je t'avoue que ce petit bout de femme me prend au trip.
Et alors, elle meurt très peu de temps après que cette règle ait été acceptée, en fait, parce que c'est la même année, en fait, c'est même le même mois.
Je peux te dire,
août 1253,
meurt deux jours après que le pape, c'est Innocent III ou IV, Innocent IV, va la visiter à Saint-Damien. Entre parenthèses, l'énergie de cette petite bonne femme était telle que tous les papes en avaient la frousse. Elle cachait pas ce qu'elle pensait. Tu peux imaginer une Italienne folle, et puis pas grosse, pas grande, quand on voit les reliques, ces reliques, ça semble de mur, mais c'est... Elle est haute comme trois pommes. Mais alors, c'était du style un ouragan. Donc, tout ça trouille. Mais, à la fin, Innocent IV finit par céder, et elle est quasi mourante, si tu veux. Mais il est sûr, comme ça arrive parfois souvent, elle ne voulait pas partir sans que le document soit entre ses mains. Elle reçoit Saint-Damien, reçoit la visite d'Innocent IV, qui remet officiellement l'accord de le privilège, et Claire se laisse aller. Elle part 2 jours après. Mission accomplie. Moi, je trouve ça... C'est extraordinaire, quoi.
Eh bien, nous aussi, on va faire un petit temps de silence, un petit temps de pause. Et on va écouter Hildegard de Bingen, De Spiritu Sancto. De retour dans l'émission Chrétien aujourd'hui, et nous parlons toujours de Sainte Claire, fondatrice des Clarisses, deuxième ordre, c'est ça, des franciscains. Et nous venons de faire une pause musicale au moment où elle mourait. Et donc, qu'est-ce qui se passe après la mort de Sainte Claire, Jean-François ?
Alors, je vais faire un petit retour en arrière. Concernant la règle elle-même. Quand François va installer les pauvres dames à Saint-Damien, il ne va pas les laisser sans une guidance. pas une règle exactement, si tu veux, mais il va leur faire, leur mettre noir sur blanc ce qui sera le cœur de la future règle de 1247 que Claire écrira, elle. Mmh. Voilà. Donc, là, si tu veux, la règle des Clarisses, la règle des pauvres dames, prend son origine dans un écrit que François remet pour guider, pour les aider. Il faut aussi savoir, pour la petite histoire, c'est que, étant en clôture et ne pouvant pas sortir, elles vont être mises sous la tutelle des frères mineurs du premier ordre. C'est eux qui vont aller mendier pour elles. Alors, je ne sais pas si tu as entendu parler des sœurs tourières. Ben oui, c'est que, comme aucun homme, sauf un ecclésiastique dûment missionné, aucun homme ne pouvait rentrer dans la clôture. Ben, quand ils arrivaient avec les deux frères qui étaient partis mendier pour elle, revenait, pas question de rentrer, pas question de que la sœur ait un contact quelconque, même si c'est visuel et à distance. Donc ils ont installé un cylindre, tu sais, un peu comme un passe-plat, mais horizontal. Les frères déposaient à l'extérieur leurs dons. La surtourière faisait tourner et récupérait ce qui avait été là. Bon, petite anecdote, mais ça montre à quel point la règle est rigoureuse. Je ne m'étalerai pas dessus parce que on y sera encore dans 15 jours. Donc, la règle étant acceptée, Claire meurt, et à partir de ce moment-là, pour la canonisation et la béatification, ça va très vite, puisque elle... En tout ça, elle meurt le 11 août 1253, et en septembre 1255, le 26 septembre 1255, elle est canonisée dans la cathédrale de Santa Maria d'Agnani. Agnani est à côté de d'Assise. Voilà. Donc tu vois, ça va très très vite. Hein. On pourra parler ensuite de la destinée, mais il est peut-être important de parler des écrits. Mmh. Elle n'a quand même pas laissé beaucoup d'écrits, un peu comme François, si tu veux, mais il y a la règle, la règle des Clarisses, qui deviennent Clarisses au moment de la canonisation. Le terme de pauvre dame sera très vite abandonné. Ça, c'est la postérité, la suite de l'histoire. Elle fait un testament, c'est-à-dire un testament, c'est en fait en quelque sorte une prise de position, un éclaircissement sur ce qu'elle veut, et les fameuses quatre lettres adressées à Agnès de Prague, moi, si vous pouvez les lire, lisez-le, c'est... Bon, j'en suis amoureux, après c'est tout. Disons les choses comme elles sont. Pour moi, elle aurait pu être nommée docteur de l'Église, mais c'est une opinion personnelle, rien qu'avec ces quatre lettres-là. Mmh. Quand quelqu'un vous dit, oui, tu contiens en ton cœur celui qui contient tout l'univers. C'est merveilleux. Une lettre également à Ermentrude de Bruges et une bénédiction à ses sœurs. Et c'est tout. Ça ne fait pas long. Hein, c'est à l'époque, on écrivait peu. Saint-Dominique n'a laissé quasiment aucun écrit. Il ne faut pas oublier ça. Autre postérité un petit peu plus légère, plus marrante, a été proclamée patronne de la télévision par Pie XII. Le 14 février 1957. Et pourquoi ? Parce que Claire est tombée malade en 1225 et restera valétudinaire jusqu'à la fin. C'est-à-dire que les conditions de vie étaient tellement féroces, pas de chauffage, pieds nus, on ne sort pas. Bon, comme François, elle s'est débilitée, elle a tenu plus le choc que lui.
Alors moi, je voudrais revenir, enfin revenir, oui, c'est pas revenir, donc on a vu la règle, j'irais, est validée par le pape Innocent IV, donc en 1253, l'année même où elle meurt, mais en fait, ça va évoluer, c'est-à-dire que dix ans après la mort de Sainte-Claire, le pape Urbain IV... promulgue une nouvelle règle de l'ordre de Sainte-Claire où là les propriétés sont de nouveau permises, c'est-à-dire qu'il y a un adoucissement de la règle, c'est-à-dire que la règle évolue quand même au cours des temps.
Alors plus brutalement, Urbain IV, qui est un pape français d'ailleurs, décide que ce nonce, pour lui, cette histoire de pauvreté, c'est un non-sens, c'est un ordre religieux, très bien. C'est un ordre religieux dont tout ordre religieux doit être en possession de ses...
Et puis d'avoir des ressources.
Exactement. Donc, il pulvérise, littéralement, et en fait des bénédictines un peu bis, avec une règle très nettement adoucie. Le cloître, être cloîtré, tout ça, reste de mise, ne peuvent pas sortir. La mère abbesse a droit de vie et de mort, mais enfin c'est... Mais elles deviennent propriétaires de leur bâtiment et de certains terrains. Donc,
et avec des ressources, donc.
Donc, vont pouvoir faire travailler les gens. Alors, c'est là que le mouvement, l'histoire de l'ordre prend un tournant assez intéressant. C'est que tous les monastères ne vont pas accepter la règle d'Urbain IV. Par contre, ceux qui existent, il n'en restera que deux ou trois qui vont continuer à vivre selon la règle de
1253.
De 1247.
Oui, 1247, mais voilà, validé par...
Voilà, 1253. Donc... D'où il va apparaître donc deux grandes tendances chez les Clarisses. Il va y avoir du côté les Clarisses urbanites, celles qui vivent selon la règle d'Urbain IV, et les Damianites, celles qui restent les pauvres dames vivant autant que faire se peut et péniblement, parce que l'Église, elles étaient suspectes. Selon la règle de Sainte-Claire de 1253. Et ça va durer, elle est là, le deuxième grand personnage de la vie des Clarisses, Sainte Colette de Corbie. Mmh. Sainte Colette de Corbie, elle, née en 1300... Attends, je vais reprendre un peu mes...
1381, je crois.
Voilà, c'est ça. Alors, elle naît à Corbie, en Picardie, donc en pleine guerre de 100 ans, en pleine crise de la peste noire en Europe, et dans une famille, c'est presque une miraculée, parce que sa mère est très âgée quand elle conçoit. On lui donne, il est dit qu'elle avait, la mère de Sainte-Colette avait 60 ans quand elle met sa fille au monde. Donc c'est déjà en soi un cas exceptionnel. Famille extrêmement pieuse, riche, là encore, toujours là, riche. Alors je ne vais pas trop m'étendre sur la vie de Sainte-Colette.
Non, mais pour que les auditeurs se rendent bien compte, là on est presque deux siècles après. C'est-à-dire Sainte-Colette meurt en 1447.
C'est le 15e siècle.
Et tout à l'heure on parlait de la règle de 1247. Donc voilà, on est 200 ans quand même, à peu près, enfin 150-200 ans après Sainte-Claire.
Voilà. Donc les Damiennes, si tu veux, quand Sainte-Colette de Corbie va entrer en... Elle s'appelait pas d'ailleurs Colette, elle s'appelait Nicolette Boëlet. Mais quand Colette de Corbie va entrer en scène, les Damianites sont quasi inexistantes. C'est-à-dire que la règle de 1253 est presque un anachronisme. Tout ce qui est Clarisse, c'est de l'urbanite.
Et donc, Sainte Colette, elle, elle va revenir à la règle initiale.
Exactement. En plus dur. Donc, il va y avoir toute une évolution. On va pas s'étaler sur l'évolution de Colette, parce que c'est elle va rechercher de tout ce qui est.
Non, mais ce qui est intéressant, oui. c'est oui. de voir comment Sainte-Claire, donc qui rédige une règle assez dure, qui réussit à avoir l'accord du pape, oui. comment finalement ça s'adoucit et comment on revient de nouveau au sens des origines. Et puis c'est un petit peu ça, peut-être dans tous les ordres, j'avoue, je sais pas trop, où il y a des évolutions, des retours en arrière pour retrouver le sens premier, parce que. Alors là, on fait un grand bond en avant, on pourra revenir en arrière après si tu veux, mais le Concile Vatican II, donc très proche de nous, a eu également son influence sur la règle, puisque suite au Concile, la mendicité est interdite. Et donc, ça remet en cause, bien évidemment, l'esprit des ordres mendiants ou des choses comme ça. Donc, comment les Clarisses se sont adaptées aujourd'hui ?
Il en reste. Elles travaillent. Bon, les Clarisses travaillent, mais elles sont plus ouvertes. Malheureusement, je vais parler de la situation. Le dernier couvent de Clarisses de notre région... qui était à Nieul-sur-Mer, dans la banlieue nord de La Rochelle, a fermé il y a 3 ans. Il ne reste plus que nous, les franciscains du tiers-ordre, comme présence franciscaine dans la région. Et alors, comment vivait-elle ? Bon, plus ouverte sur le monde, travaillant à l'intérieur, toujours cloîtré, ça c'est avec toujours des tentatives pour revenir à la source, la mendicité, ou vivre de don. La différence entre mendier et vivre de don, elle n'est pas si évidente que ça, tu vois. Mais toujours avec cette volonté d'être contemplative. Il faut vivre matériellement, certes, mais tout pour Dieu. Des possessions quand même de soi-même. C'est-à-dire les règles de base des pauvres dames ont toujours été présentes, même après Vatican II, tu vois.
Alors, je me suis posé la question, est-ce qu'il existe un tiers-ordre pour les Clarisses comme ça existe pour les franciscains ?
Non, parce que premier ordre, parce que premier fondé. Deuxième ordre, parce que fondé en deuxième position, après. Et le troisième ordre, parce qu'il a été fondé après. Premier ordre, 209. Deuxième ordre, 1253. Troisième ordre, 294. Tu vois, c'est ça, ça veut simplement dire, c'est pas les moins, c'est pas un podium, c'est une chronologie.
Oui, donc les femmes qui souhaitent, qui sont pas engagées, comment je pourrais dire ? L'équivalent du tiers-ordre pour les franciscains, en fait, est ouvert, enfin, le tiers-ordre franciscain est ouvert aux femmes comme aux hommes.
Et c'est ça, prêtres, c'est ça. Et tous ceux qui ne peuvent pas, pour une raison lambda, qui ont envie d'avoir une vie consacrée, mais qui, pour une raison lambda, on est marié, on a un métier, il y a des enfants, mais en même temps, avoir quelque chose de plus profond dans leur vie, la contemplation, la prière, et c'est ouvert à tous.
Ben c'est sur ces mots que va s'achever notre émission, cher Jean-François. Donc merci à toi d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir éclairé sur Sainte-Claire et l'Ordre des Clarisses. Nos remerciements encore et toujours à Virginie pour le montage et la mise en onde de cette émission. Très bonne semaine à tous et à toutes.
Commissaire, je reviens du caméo, regardez ce qu'on a trouvé coincé dans une porte. Un doigt.
Ah!
Non. Non, je déconne.
U4B.
Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear when I never fear the world? When the wicked ones come to heat up my flesh, Rastafari, I know there's a stumbling fall. So press along, I keep it along. Song long, long, burn, press along, and I keep it along. So rest up, press along, make me press along. Press along.
Corruption. Rasta know I gotta do what is right and not what is wrong.